à tous, bienvenue pour ce sixième balado intitulé « Favoriser la diversité en emploi ». On reçoit Rania Amilcar, directrice exécutive du réseau d'autobus de la STM. Rania Amilcar a débuté sa carrière chez Pratt & Whitney en tant qu'ingénieur, puis a travaillé depuis 18 ans à la STM où elle a eu une carrière fulgurante en montant les différents échelons de l'organisation. Ingénieure de formation de l'École Polytechnique de Montréal, Rania Amilcar détient également un MBA de l'Université Sherbrooke. Rania Amilcar est reconnue pour ses compétences et son leadership au sein de la STM. Elle a également obtenu plusieurs prix, dont celui de lauréate Prix Leadership Femmes d'Exception Grandes Entreprises, qui lui a été décerné par la Fédération des Chambres de Commerce au cours des Mercuriades d'avril 2018. Elle a également été la première Canadienne et première femme à être présidente du comité bus de l'Union internationale des transports publics, poste qu'elle a occupé de 2017 à 2019. On passera à travers les moments marquants de sa carrière et on essaiera de comprendre avec René quelles sont les compétences clés lorsqu'on veut passer d'une contributrice individuelle à une gestionnaire de personnes. On essaiera également de comprendre le rôle clé qu'elle a joué dans la mise en œuvre du plan stratégique de la STM. En étant gestionnaire de plus de 1000 employés, puis de 5300 employés, on essaiera aussi de comprendre comment on peut rester stratégique dans la gestion de nos ressources humaines. On essaiera aussi de comprendre pourquoi ça a mis plusieurs années avant qu'on puisse voir une femme à la tête de l'Union internationale des transports publics. On lui demandera également quels ont été ses modèles de leadership au féminin. Et finalement, on essaiera de comprendre pourquoi c'est important pour la STM de reconnaître la diversité de ses clients, notamment à travers le transport adapté. Qui est René Amilcar?
Alors, René Amilcar est une ingénieure, femme de carrière dans les opérations de gestion de gros groupes. Et j'ai travaillé autant chez Pratt & Whitney Canada, chez Nortel Networks et depuis 18 ans maintenant à la Société de transport de Montréal où j'ai tour à tour été analyste principale en ingénierie et maintenant directrice exécutive.
Vous avez débuté votre carrière à Pratt & Whitney avant de vous diriger vers la STM. Depuis, vous avez gravi les échelons et êtes resté à la STM depuis plus de 18 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce changement, puis motivé ce choix de carrière de rester à la STM?
La STM, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose de positif à la grande population à tous les jours parce que la STM déplace des gens qui vont à l'école, qui vont au travail, qui vont faire des loisirs. Alors, pour moi, je trouvais que c'était un métier beaucoup plus concret. Et en plus, la STM offre de belles opportunités d'avancement. Ce ne fut pas le choix premier pour lequel j'ai choisi STM, mais ça a fait en sorte aussi que d'année après année, j'ai pu évoluer dans l'entreprise. Et tour à tour, j'ai eu vraiment de très beaux défis faisant en sorte que je reste encore dans cette belle famille.
Parfait, merci beaucoup René. Vous êtes successivement passé d'un poste d'ingénieur à des postes de gestion de premier niveau. Quelles sont les compétences clés qu'on développe lorsqu'on passe d'une contributrice individuelle valorisée pour ses compétences techniques à une gestionnaire de personnes?
Alors ça, c'est une excellente question parce que ce n'est pas parce qu'on est bon techniquement qu'on est bon gestionnaire et vice-versa. Alors, moi, j'ai toujours eu cette curiosité d'aller chercher du concret, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, d'aller voir est-ce que mes hypothèses dans mon bureau sont réalistes lorsque vient le temps de les appliquer sur le terrain. Alors, rapidement, ça a fait de moi une ingénieure, oui, qui est capable de parler technique, mais qui est capable aussi de vulgariser et de comprendre les réalités dans lesquelles ces technicalités-là devront s'appliquer. Donc, je pense que ça fait en sorte aussi qu'on doit être un très bon communicateur parce que lorsqu'on veut être en mesure autant de parler avec un mécanicien qui comprend très, très bien tout ce qui est technique, mécanique bus, par exemple, et qu'on doit s'adresser ensuite à un conseil d'administration, bien, le même enjeu, le même problème ne s'expliquera pas de la même manière. Donc, j'ai cette facilité qui fait en sorte aussi que je suis capable de vulgariser et de parler aussi la langue technique avec les personnes appropriées. Donc, pour moi, ce sont des qualités que je pense qui font en sorte qu'on est en mesure de passer d'une personne technique à une personne, à un gestionnaire. Bien sûr que j'ai été me chercher aussi des outils. J'ai une maîtrise en administration des affaires, donc j'ai pu toucher à d'autres choses que l'ingénierie. Mais aussi, la proximité des gens fait en sorte aussi qu'on développe d'autres atouts qu'on n'apprend pas sur un banc d'école.
Durant cette période, la STM met en œuvre un plan stratégique axé sur la croissance de l'achalandage. Elle bat des records d'achalandage qui sont plus élevés que ceux que l'équipe de direction s'était fixés. La STM est aussi élue meilleure société de transport en commun en Amérique du Nord. Dans une étude de cas sur la STM, on voit que vous aviez eu un rôle clé dans la mise en œuvre de ce plan stratégique qui passait essentiellement par les employés de l'entretien des autobus. Racontez-nous cette histoire.
Oui, ce sont des beaux souvenirs, effectivement, parce que c'était sous l'ère de M. Yves Devin, qui était directeur général à l'époque. Lorsqu'il est arrivé à la STM, il a voulu vraiment donner les marques de noblesse à la STM et il a fait beaucoup de démarches pour pouvoir aller nous chercher des sous de manière à ce qu'on puisse être beaucoup plus agressif en termes de livraison de services. Et effectivement, nous y sommes arrivés. Et nous sortions d'une négociation très, très, très difficile, comme elles le sont toutes, d'ailleurs, à chaque fois que nous renouvelons une convention collective avec nos partenaires syndicaux CSN à l'entretien. C'est toujours très, très, très difficile. Et à la fin de cette négociation-là, les tensions étaient très, très vives. Et c'est là qu'on m'avait demandé de venir jouer un rôle assez important. Et bon, justement, le fait que j'avais cette facilité de communiquer avec les employés d'entretien, c'est clair que ça avait facilité le tout à l'époque. Et on avait le vent dans les voiles parce qu'on avait beaucoup d'autobus neufs aussi. On a pu mettre en place une belle entente de partenariat avec nos employés, toujours dans le but d'aller donner un meilleur service à nos clients. Et ça a fait en sorte que vraiment la tendance qui était plus sous forme de confrontation à l'époque est devenue plus un travail de collaboration. Et ça a été vraiment un révélateur. Je pense que dans le cadre de cette étude-là, vous aviez aussi rencontré M. Carl Desrosiers, qui n'était pas encore DG à l'époque, qui était directeur exécutif. Lui avait cru en moi, puis il m'avait dit que je pouvais faire ce travail-là à l'entretien avec le syndicat. Et c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à sortir de cette torpeur et vraiment être en mesure de livrer un beau service puis gagner des prix. Malheureusement, avec la COVID-19 présentement, l'achalandage a pris vraiment une descente drastique. Je ne vous apprends rien. Et c'était encore tout de suite après qu'une autre convention collective qui a duré 2 ans cette fois-ci, sous l'ère de M. Luc Tremblay, qui est maintenant le directeur général, qui a été aussi très, très, très difficile, malheureusement, cette convention collective-là aussi. Mais en plus, là, avec la COVID-19 qui est arrivée, ça revoit à la baisse, malheureusement, tous nos efforts. Mais nous gardons confiance que nous allons remonter la pente.
Et on garde confiance aussi. Et pour révéler ce qui avait été indiqué dans cette étude-là, on avait vu que pour réussir sa stratégie d'achalandage, la STM passait par les autobus. Et pour passer par les autobus, il fallait que les autobus sortent des entrepôts. Et à l'époque, on était à, je pense, autour de 20 à 25% d'autobus qui étaient dans les entrepôts. Et parce que vous avez eu un rôle clé en créant justement cette relation de confiance-là, eh bien, vous avez trouvé un accord aussi avec le syndicat qui permettait de trouver une façon de partager les gains de productivité et qui a permis à la STM de sortir les autobus et de justement avoir des passagers dans ces autobus.
Définitivement, oui, vous avez tout à fait raison. Et en plus, c'est surtout le travail de collaboration. Moi, je me plaisais de dire qu'on n'était plus dans une relation hiérarchique, on était plus en mode collaboration et ça a eu son succès et j'y crois encore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
En 2010, vous devenez directrice de l'entretien des autobus de la STM. Plus de 1000 employés relèvent de vous. Puis à partir de 2014, vous êtes désormais à la tête du réseau de l'autobus de la STM avec plus de 5300 employés qui relèvent de vous. Vous accédez aussi à l'équipe de direction. Comment on fait pour rester stratégique dans la gestion des ressources humaines?
Il faut rester soi-même. Souvent, on dit ce qui nous propulse vers le haut peut être la même chose qui va nous redescendre si on change pas. Mais il y a aussi des qualités qui sont bonnes en bas et qu'il faut garder en haut. Et moi, j'ai toujours été très, très proche de mes employés. Jusqu'à aujourd'hui, mes employés me disent, et ça me fait vraiment plaisir, ils disent, René, tu es accessible. Et pour moi, c'est une très belle qualité parce que les gens n'ont pas la langue de bois lorsqu'ils me parlent parce qu'ils savent que je suis capable d'entendre la réalité, je suis capable d'entendre la vérité et je suis capable aussi de dire un non et je suis capable aussi de prendre des décisions impopulaires, mais je vais toujours donner une raison. Donc moi, je pense que de cette façon-là, les gens vont toujours vouloir nous suivre, de toujours donner leur juste et de ne pas dire un oui juste pour faire plaisir et surtout de revenir aux gens. Et ça arrive qu'on me pose des questions que je ne sois pas en mesure de répondre dans l'immédiat, mais une chose est certaine, les gens ont cette confiance en moi que je vais y revenir et peu importe que la position de la réponse soit bonne ou mauvaise, il y aura réponse. Et pour moi, je pense que nos ressources humaines méritent au moins ça pour tout le travail et tout l'effort déployé à tous les jours.
En 2017, vous êtes la première Canadienne et la première femme à être nommée présidente du comité bus de l'Union internationale des transports publics. Qu'est-ce qui explique ce retard dans l'autobus?
Ça aussi, c'est une très bonne question. C'est le retard dans l'autobus, mais c'est un retard un peu partout parce que tout ce qui est identifié homme, malheureusement, les femmes ont tardé à prendre leur place, ont tardé à se faire une place. Les hommes ont tardé aussi à respecter cette inclusivité qui fait en sorte que nous sommes que plus forts et plus unis. Pour moi, c'est vraiment une fierté, cette première, parce que lorsque j'ai été nommée à ce poste-là à Bruxelles, moi, j'avais posé mes conditions. C'est un petit peu ma marque de commerce parce que j'avais dit l'UITP, qui est l'Union internationale des transports publics, avait toujours comme un peu de mode opératoire que les gens vont venir en Europe, les gens vont venir voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, lorsque j'ai pris la présidence, j'ai dit, et si nous sortions? Alors, nous sommes allés en Chine, à Shenzhen, et ça a ouvert beaucoup de belles opportunités pour l'UITP. Maintenant, il y a plusieurs groupes de la Chine qui sont membres de l'UITP et on fait beaucoup de balisages ensemble, on fait beaucoup de travail de collaboration ensemble. Nous sommes allés au Maroc. C'était la première fois que le comité bus allait dans des pays de l'Afrique, alors qu'on sait très bien que à ces endroits, tout ce qui est transport en commun, c'est une mine d'or en découverte et de part et d'autre. Hein, parce que moi, c'est sûr que j'arrive du Canada avec toutes les équipes de l'UITP qui sont très, très, très européens. On arrive au Maroc, on pourrait penser que c'est nous qui allons à leur apprendre. Oh que non, eux aussi avaient à nous apprendre. Donc, c'était de très, très belles découvertes. Et l'UITP a beaucoup apprécié cette audace de ma part de sortir l'UITP de l'Europe. Et je pense aussi sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, les retombées sont encore très, très bonnes du fait que les gens ont dit « Hey, l'UITP est venu nous chercher, donc nous, on reste avec l'UITP. »
On aime ce côté canadien d'ouverture sur le monde.
Oui.
J'ai grandi à Bruxelles, donc
c'est
une ville
qui m'est... Okay.
qui occupe une place importante dans mon cœur, ouais, définitivement. En 2018, vous êtes lauréate Prix Leadership Femmes d'Exception Grandes Entreprises, décerné par la Fédération des Chambres de Commerce au Mercuriade d'avril 2018. Dans votre discours, vous dites notamment que vous ne négligez pas le volet académique, qu'il faut être curieux, de travailler en équipe, d'aimer ses employés. Et sur une note d'humour, vous parlez également de ne pas trop souvent enlever la main de fer du gant de velours, pardon. On comprend la référence à Margaret Thatcher, ancienne première ministre du Royaume-Uni. Qui étaient vos modèles de leadership au féminin?
C'est une très, très bonne question parce que, au fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, malheureusement. Moi, je dirais que je prends plus des bouts de modèles et que je rapiécis ensemble, puis je me fais une belle nappe avec ça. Je peux dire ça comme ça. Donc, je n'ai pas nécessairement une personne que je vais vénérer de la tête aux pieds, mais je vais avoir des bouts que je vais apprécier. Lorsque je parle de la main de fer dans un gant de velours, c'est que c'est clair que être une femme gestionnaire qui travaille dans un monde d'hommes, je dois être capable de mettre mon pied à terre, mais je ne veux pas non plus jouer, excusez l'expression, en tomboys, là. C'est pas le but. Le but, c'est de rester féminine aussi. Mais par contre, j'ai mon caractère, j'ai ma façon de voir les choses. Je gère des gros sous, donc je dois être capable d'être ferme lorsque nécessaire, mais je vais privilégier la douceur, mais ça va être une douceur dans la fermeté, donc si je peux le dire comme ça. Alors, c'est un petit peu mon style. Des fois, ça peut paraître un peu. Je suis souvent identifiée que j'ai une manière de voir les choses, mais quand on gère les gros groupes, faut pas que, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de nuages. Il faut que ce soit clair. Si on est un petit groupe et que je suis en mesure d'expliquer un à un pourquoi je fais une chose à gauche puis d'autres choses à droite, mais lorsqu'on veut qu'un message soit clair, je mentionnais tout à l'heure qu'une des qualités qu'il faut avoir lorsqu'on est un gestionnaire, surtout de gros groupes, c'est la communication. Donc, il ne faut pas avoir de place à l'ambiguïté. Donc, quand c'est clair, il n'y a pas de place à l'ambiguïté. Donc, c'est pour ça que des fois, je disais tout à l'heure aussi que des décisions impopulaires, je suis capable d'en prendre. Et donc, à ce moment-là, je pourrais dire que j'ai enlevé mon gant parce que je sais que ce ne sera pas nécessairement bienvenu. Mais je suis capable aussi de faire face à ça. Et on va aussi célébrer les fois où ce que ça va être des bonnes nouvelles. Et c'est un petit peu ça, je dirais. Mais vous n'aurez pas de nom de moi aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup René. Et ça nous amène en plus vers un de vos rôles à vous. La STM dispose d'une offre diversifiée de transports en commun, incluant le métro, les autobus et le transport adapté. Pourquoi est-ce que c'est important de considérer la diversité de nos clients dans nos choix stratégiques?
Parce que ce sont nos clients. Parce que ça fait tellement longtemps que les gens disaient à Montréal, le modèle de client n'était pas représenté nécessairement dans le modèle d'employé qui desservait. Madame Louise Roy, que j'admire énormément, qui a été la première et unique femme directrice générale de la STM dans les années 80. Et elle, c'est elle qui a commencé à porter une structure pour faire en sorte que les employés représentent la clientèle. Donc, lorsque nous sommes le modèle de ce que nous transportons dans le cas qui nous intéresse le transport, c'est beaucoup plus facile de voir justement l'importance. C'est pour ça que nous avons, pas encore beaucoup, mais nous avons des personnes à mobilité réduite qui travaillent chez nous, entre autres au transport adapté. Ça, c'est une belle fierté. De plus en plus, la STM continue à mettre en place tout le programme dont avait élaboré Mme Bouzeroy à l'époque, sur justement la diversité, pour justement faire en sorte que les employés reflètent la société desservie, puis aussi pour être en mesure de prendre des décisions dans la bonne direction. Parce que si on représente les personnes qu'on dessert, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'être empathique, d'être capable de se mettre à la place d'eux. Et ça, la STM le fait très, très bien parce que autant le métro, on sait, le métro avait été bâti sans ascenseur. Aujourd'hui, c'est impossible de penser qu'on va faire un prolongement de métro puis qu'il n'y aura pas d'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Le transport adapté, nous sommes fiers de desservir tous les jours les personnes. C'est un service porte-à-porte, mais qui est important pour ce type de client-là en tant que tel. Et tous nos autobus sont munis de rampes, faisant en sorte que les gens aussi ne dépendent pas nécessairement que du transport adapté. Donc ça, pour nous, là, c'est vraiment une belle fierté. Et c'est pour ça aussi que vous m'avez posé la question, pourquoi 18 ans à la STM? Cette question-là, je vous dirais, a pesé lourd dans la balance. C'est justement, c'est que c'est concret, c'est utile et c'est agréable le changement là, qu'on est capable de faire pour ces gens-là.
Parfait. Et merci beaucoup. Et on est certain que vous avez tous les jours des opportunités et que c'est un choix d'être au service du transport collectif. Et on vous remercie pour ça,
René.
HEC Montréal compte plus d'étudiantes dans certains programmes, tandis qu'ils proviennent de 144 pays. Certains d'eux obtiendront un BA en ressources humaines au terme de leur session. Que leur recommandez-vous afin qu'ils réussissent cette transition en tant que futurs professionnels des ressources humaines?
Alors moi, je dirais déjà bravo d'étudier parce que à chaque fois, j'ai l'opportunité de rencontrer des groupes qui me demandent qu'est-ce qu'on doit faire, Madame Amilcar, pour se rendre à des postes comme vous. Moi, je dis dans un premier temps, allez vous chercher des outils et si vous êtes déjà au HEC en temps d'étudier, c'est déjà un très bon outil. Ensuite, soyez curieux et faites du bénévolat. Allez voir ce qui se passe dans les milieux. Comprenez bien les gens, écoutez bien, regardez ce qui se passe autour de vous. Cette curiosité va vous emmener ailleurs et cette curiosité va faire en sorte que vous allez réussir. Ensuite, c'est sûr que bon, il faut travailler un peu, hein, c'est normal. Et n'ayez pas peur non plus d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des mentors. Ça aussi, c'est important. Je trouve que c'est un levier là, que malheureusement, on n'utilise pas assez. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie jusqu'à aujourd'hui d'avoir des gens qui m'appellent pour me dire « René, j'ai pensé à ça pour toi, qu'est-ce que tu en penses? » et ainsi de suite. Et ça, c'est un beau cadeau de la vie. Donc, dites oui à ces opportunités. Lorsque les gens vous voient plus haut que vous pensiez peut-être aller, dites oui, acceptez dans votre respect toujours, bien sûr, mais ayez cette audace, osez. Donc, c'est ce que je dirais, moi, à tous ces jeunes, en plus de bravo, parce que c'est pas facile quand même, HEC, c'est très renommé en plus, alors c'est déjà un gros plus.
Ouais, merci beaucoup, René. Je sais que quand j'étais venu vous voir, j'étais assistant étudiant et le temps que vous aviez accordé à cette époque, en tout cas, ça m'a marqué, même 10 ans après, je peux vous reciter ce que vous avez dit et j'espère que ça marquera aussi autant les étudiants et on vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous avez pu nous accorder et peut-être dans 10 ans, qui sait?